Salut Laetitia.
Salut Hélène.
Et bonjour à toutes et tous.
Alors aujourd'hui, on vous propose un épisode un peu spécial. Comme vous le savez, dans ce podcast, nous explorons le futur du travail et les métiers utiles pour la société de demain. Nous avons voulu transmettre un message inspirant, encouragé au passage à l'action par l'exemple. Ces derniers mois, nous avons partagé des témoignages de personnes qui réinventent leur métier et repensent la sphère du travail. Toutes ces femmes et tous ces hommes qui œuvrent pour une société plus désirable, tout en s'épanouissant personnellement et professionnellement.
Et aussi, depuis plusieurs années, les différents enjeux environnementaux et sociaux nous alertent, et on n'est pas les seuls évidemment à le constater. Pour éviter d'aller droit dans le mur, la société doit franchement enclencher une bascule. On estime que notre système actuel, individualiste, consumériste et capitaliste, doit être repensé. Le monde du travail, ce qu'il sert à produire et les conditions dans lesquelles il est exercé doit également être repensé. Travailler moins et mieux, lutter contre les discriminations, revaloriser les métiers essentiels, relocaliser et décarboner l'économie, repenser le pouvoir et les instances de décision sont autant de sujets nécessaires à la transition de notre société. Transition qui passera indéniablement par une transformation de notre façon de travailler aussi.
Mais c'est pas tout. En tant que femmes, toutes les deux, on a eu des parcours professionnels différents, mais assez similaires sur de nombreuses inégalités et injustices. Par exemple, de mon côté, après avoir eu mon bac avec mention, fait une école supérieure de mon choix, bénéficié d'une situation d'étudiante plutôt confortable, je suis entrée dans le monde du travail avec légèreté et naïveté. Finalement, tout avait été plutôt facile jusqu'alors, travailler, réussir, avoir un bon métier, j'étais dans les clous. Mais plus je cumulais les expériences professionnelles et plus la réalité du monde du travail me frappait au visage. À 23 ans, mon patron me dit que j'ai trop confiance en moi. À 30 ans, on me dit que je suis trop silencieuse en réunion, que je ne parle pas assez fort, que je n'affirme pas assez mes opinions, ou du moins celles de mon agence de l'époque. On voudrait que je prenne plus la parole. Prendre la parole. Mais ok, mais est-ce qu'on me l'a vraiment déjà donné cette parole? Je veux dire, a-t-on déjà vraiment voulu entendre ce que j'avais à dire? Pourtant, nous, les femmes, nous voulons plus. Nous voulons être entendues. Nous voulons être consultés et prendre part aux décisions, mais à notre manière, avec nos sensibilités et nos expériences.
Et depuis le lancement de ce podcast, au cours de nos différents échanges, discussions, de nos lectures, on fait inlassablement le même constat assez agaçant. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'inégalités femmes-hommes au travail qui perdurent? Pourquoi les carrières des femmes sont semées d'embûches? Tout ça parce qu'elles sont des femmes. Comment se fait-il qu'en 2022, beaucoup de métiers soient encore très genrés? Ou encore, comment expliquer la très faible présence des femmes dans les instances de pouvoir? Et d'ailleurs, ce dernier sujet me fait penser en fait au plafond de verre qui empêche des femmes compétentes et talentueuses à accéder à des postes à responsabilité. Moi, je me souviens que quand j'ai démarré ma carrière professionnelle dans un milieu très masculin et assez vieux jeu, je comprenais pas les quotas. Je pensais même que ça pouvait me desservir. Moi, j'avais juste envie d'évoluer et de réussir sur la base de mes compétences et de ma valeur. Sauf que c'était une vision assez naïve, on va pas se mentir. Et que l'on a malheureusement besoin des quotas pour faire péter le plafond de verre et faire en sorte que, du coup, des femmes soient valorisées. Il y a effectivement plein de femmes qui sont largement qualifiées pour avoir des postes à responsabilité. C'est pas normal d'en voir si peu dans les instances de pouvoir. Et tout autour de nous, on constate qu'il y a de nombreuses femmes qui créent des initiatives, des entreprises, des collectifs pour un monde plus écologique et plus solidaire. C'est des femmes qui pensent, écrivent et militent pour des nouvelles façons de travailler et de collaborer aussi.
Nous sommes nombreuses finalement à avoir enclenché notre transition écologique en assumant à la fois la charge mentale et la charge environnementale au sein de notre foyer.
Et nous sommes nombreuses à œuvrer au quotidien notre travail et dans notre vie perso pour cette transition de société.
Nous sommes nombreuses à repenser les modèles de réussite et de leadership. Mais nous le faisons pas comme des hommes. Nous avons notre propre façon de faire. Nous avons notre propre façon de travailler, de créer, de fédérer, de collaborer. En bref, nous pensons différemment le futur du travail.
Et comme beaucoup d'autres femmes, nous pensons qu'il est possible et même nécessaire de travailler dans la collaboration plutôt que la compétition. Et qu'aujourd'hui, il est vraiment vital en fait de travailler en prenant soin de soi, soin des autres et soin de la planète. Du coup, dès aujourd'hui, dans le podcast, nous avons envie de traiter de la place accordée aux femmes dans le monde du travail et des nombreuses façons de réinventer le travail aussi en tant que femme. Parce que malgré les avancées des luttes féministes, la parole des femmes est encore loin d'être écoutée. Et cela est encore plus vrai dans la sphère professionnelle. Mais du coup, comment on fait ?
Eh bien, pour essayer de répondre à cette question, ma chère Hélène, nous allons désormais explorer le futur du travail avec nos lunettes d'écoféministes. Ce mouvement lutte contre la double exploitation à la fois des femmes et de la nature. Et pour mieux comprendre cette notion, nous avons rencontré Marion Azevedo, qui, dans le cadre de sa formation à l'Institut Transition de Lyon, a écrit un mémoire de recherche sur le rapport entre écologie et féminisme pour une société plus écologique et plus solidaire. Elle a bien voulu répondre à nos questions, en commençant par nous expliquer ce que recouvre, selon elle, cette notion d'écoféminisme.
Alors déjà, l'écoféminisme, on entend beaucoup parler depuis quelques années, on va dire. C'est vraiment revenu sur le sujet de la table. Pourtant, c'est une notion qui existe depuis quand même quelques décennies, mais qui ont été un petit peu, en tout cas en France, passées aux oubliettes pendant pas mal de temps, malgré qu'on avait aussi une auteure sur le sujet, si on peut parler de Françoise Debonne, par exemple, qui a écrit sur l'écoféminisme. Néanmoins, voilà, c'est un sujet qui revient... depuis quelques temps. L'écoféminisme, en gros, fait le parallèle entre, d'une part, l'exploitation et la brutalisation de la terre et de ses populations, et d'autre part, en fait, toutes les violences physiques, économiques, psychologiques, voire peut-être même on peut dire aussi sexuelles, qui sont perpétrées quotidiennement envers les femmes et envers les minorités, en fait. C'est vraiment de mettre en lumière les deux systèmes de domination qui... aujourd'hui sont très courants dans notre société, donc la domination qu'on peut avoir sur la nature et la domination aussi qui est faite sur les femmes en fait au quotidien. On constate de manière générale dans les données que en fait ce sont les femmes qui sont souvent les plus victimes en fait du dérèglement climatique et de toutes ces injustices qui existent en fait. Et j'en avais conscience, mais de entre guillemets me remettre le nez dans les chiffres, ça m'a reconvaincu là-dessus, en fait. On l'oublie un peu trop souvent parce que on pense que aujourd'hui, au XXIe siècle, on est dans une société qui, entre guillemets, va bien et sur laquelle il y a beaucoup moins d'inégalités qu'avant, en tout cas pour les femmes, parce qu'il y a plein de choses qui sont passées quand même depuis 60 ans. Il y a eu toutes les luttes féministes qui quand même beaucoup apporté à la gente féminine, je veux dire ça, même si je suis pas très... enfin, je n'ai pas trop compte de le dire. Mais en fait, il y a quand même voilà toutes ces luttes féministes qui ont été menées depuis les années 50 et même avant, en fait, et qui ont apporté énormément, en fait, à nos sociétés. Toutes celles qui sont liées à la liberté de corps des femmes, la contraception, toutes celles qui sont liées au travail, à la possibilité d'avoir un compte en banque, etc. Et ça, on est d'accord que c'était ultra essentiel et c'était des combats qui ont été menés, mais il faut pas oublier que je pense que les combats sont pas terminés et qu'il y a encore des choses à faire évoluer dans notre société pour effectivement qu'il y ait beaucoup moins de déséquilibre entre les hommes et les femmes dans certaines sphères de la société et qu'à côté on soit plus égaux en fait. Enfin, l'écoféminisme aussi propose une sorte de nouvel humanisme en fait, et c'est ça qui est important de retenir. L'écoféminisme, et comme aussi d'autres mouvements féministes, ne dit pas que les femmes doivent être supérieures aux hommes. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas un nouveau système de domination régi par les femmes. C'est juste de trouver cet équilibre et cette équité entre les hommes et les femmes, et aussi en prenant en compte les minorités, parce que il y a des systèmes de domination, oui, entre hommes et femmes, mais aussi par rapport à l'âge, par rapport aux origines, par rapport au milieu professionnel, etc., aux classes socioprofessionnelles. Donc ça va un peu plus loin que ça.
Ce que Marion nous explique ici, en fait, c'est que nous avons besoin de tout le monde, femmes comme hommes, pour relever les grands défis de notre monde. Et pourtant, on le perçoit au quotidien et on le vit même, en fait. Ce sont les femmes qui ont la charge mentale de s'occuper de la maison, de la famille, et qui, par-dessus, s'ajoute une autre charge, qui est la charge environnementale, qui consiste en fait à mener la transition écologique au sein de son foyer. Et on a souhaité, du coup, demander à Marion pourquoi, finalement, les femmes assument cette petite double peine.
Alors, c'est des explications qui sont pas forcément évidentes, parce qu'ils sont... Il y a peut-être deux choses. Je vais commencer par une. C'est que, donc oui, il y a plus de femmes qui gèrent l'écologie du quotidien, si je peux dire, donc tout ce qui a trait à faire du zéro déchet, de l'alimentation biologique, à se tourner vers des produits plus naturels, aussi bien en cosmétique que pour les produits ménagers, etc. Et ça, c'est principalement géré par les femmes. Pourquoi ? Parce que dans l'état actuel des choses... généralement, dans un foyer, c'est la femme qui se charge de ça. Donc forcément, c'est elle qui va gérer la transition écologique à ce niveau-là. enfin les chiffres de l'INSEE le disaient, il y a quand même, si on regarde le temps passé accordé aux tâches domestiques et parentales, en fait, les femmes passent deux fois plus de temps que les hommes, en fait, à peu près. Et dès qu'on parle, par exemple, des tâches plutôt ménagères, domestiques, si on regarde la répartition homme-femme, les femmes s'occupent de 70% de ces tâches, en fait. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une grosse disparité entre les hommes et les femmes et de ce qui est fait, en tout cas, dans la sphère domestique, la sphère du foyer, en fait. Et du coup, bah, forcément, naturellement, bah, c'est elles qui vont un peu plus gérer ces choses-là. Néanmoins, ce qu'on remet sur la table de plus en plus aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié à l'éthique du care, en fait. Cette éthique du care qui correspond aux soins des autres qu'on peut accorder. Donc, c'est l'idée que on s'occupe de quelqu'un, qu'on prenne en charge les choses, qu'on porte de l'attention, etc. Donc, à toutes ces tâches qui peuvent être domestiques aussi, mais aussi aux enfants, par exemple, et aux personnes les plus fragiles. Et ça se manifeste de différentes manières. Ça peut être aussi bien des actions très concrètes et tangibles, mais c'est aussi parfois une aptitude mentale, en fait, tout simplement. Ce soin des autres, aujourd'hui, c'est quand même une injonction qui est plutôt faite aux femmes depuis qu'elles sont toutes petites, en fait. C'est aussi encore pas mal dans les mœurs. Alors moi, j'ai pas vécu ça parce que je viens d'un foyer, on était deux sœurs, mais il y a des foyers où c'est peut-être des filles, les enfants, c'est des filles et des garçons. On va plus naturellement dire à la fille de débarrasser la table qu'au garçon, en fait. C'est des choses qui sont encore très ancrées dans une culture qui commence à évoluer, et c'est important, et c'est nécessaire, et c'est déjà bien que ça évolue, mais on doit encore aller plus loin. Et je pense que ce qu'il faut retenir de ça, et moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que cette injonction du care, elle peut plus être seulement faite aux jeunes filles et aux jeunes femmes et aux femmes. C'est en fait quelque chose qui doit à toutes et tous nous importer, qu'on doit pouvoir se réapproprier, voir s'y épanouir, qu'on le revalorise aussi, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est lié aux soins des autres, c'est quand même pas forcément des fonctions qui sont, je vais pas dire très estimées, mais en tout cas, elles sont parfois sous-valorisées, clairement. Et c'est important que l'on puisse toutes et tous, encore une fois, je dis toutes et tous, se réapproprier ça, et parce que aussi, c'est assez simple, mais le soin des autres, c'est aussi une porte d'entrée à prendre soin de la nature, en fait.
Depuis la pandémie, on entend de plus en plus parler des métiers du care, c'est-à-dire les métiers du soin. Ces métiers si importants, si essentiels, majoritairement occupés par des femmes, nécessitent une réelle revalorisation, aussi bien au niveau du salaire que de la reconnaissance professionnelle. Mais ce sur quoi Marion insiste, c'est qu'il est nécessaire de dégenrer cette éthique du care. Il est important de déféminiser ces métiers afin que les hommes s'emparent également de ces missions-là.
Oui, c'est très vrai, et il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, premièrement, si plus d'hommes s'occupent des fonctions dites féminines, cela va participer à revaloriser ces métiers, donc autant au niveau salarial qu'au niveau de la reconnaissance. Et deuxièmement, les femmes pourront alors se tourner plus facilement vers d'autres métiers et d'autres fonctions. Elles n'auront plus à assumer toutes seules la charge du care dans nos sociétés. Ce qu'explique Marion, c'est qu'il y a un autre obstacle aussi qui empêche les femmes de redessiner leur carrière et leur évolution professionnelle, c'est elles-mêmes, ou du moins la perception qu'elles ont d'elles-mêmes.
Les femmes pourraient entre guillemets s'en sortir toutes seules, si par exemple certaines n'avaient pas autant cette sensation de manque de légitimité, dont on parle souvent dans le milieu féminin, que des femmes n'osent pas aller sur tel ou tel créneau parce que prise de doute, de manque de légitimité, mais je suis peut-être pas assez compétente pour ci, je suis pas assez pour ça. Et ça, c'est un truc sur lequel on doit aussi beaucoup travailler, je pense. Et ça revient, moi j'ai la sensation que ça revient aussi à tout ce qui a trait à la perception qu'on a du pouvoir et de la réussite, en fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui réussit, c'est plutôt en général un homme avec une grosse voiture, un gros compte en banque, du patrimoine, et qui a quand même un comportement parfois un peu compétiteur ou prédateur dans le milieu du travail. Et c'est des signaux aussi que nous renvoie la société, les médias, etc. Et ça, c'est hyper important d'aller contre ça, parce que notre société aura aussi du mal à évoluer, alors que si on proposait une autre vision de la réussite, peut-être que ça serait plus intéressant, c'est-à-dire que réussir, en fait, c'est peut-être d'avoir un travail où on s'y épanouit, mais où on s'est aussi accordé du temps à tout ce qui est tout ce qui se réfère à notre sphère privée, donc notre famille, nos amis, mais c'est aussi un travail qui nous permet aussi d'avoir de la disponibilité pour faire du bénévolat et s'engager dans des causes qui nous tiennent à cœur. Je pense pas que ça soit les femmes qui doivent sauver le monde toutes seules, parce que on en revient à créer une scission en fait. Et l'idée, c'est quand même qu'on soit tous dans toutes et tous dans le même bateau. Et c'est ça qui m'interroge, c'est que oui, les femmes, elles ont tout leur rôle à jouer là-dessus, et on doit leur donner plus de place. On doit donner plus de place dans les instances de décision, dans les hiérarchies, etc. Mais de toute façon, elles pourront pas mener le combat toutes seules, parce qu'elles restent quand même que la moitié de l'humanité, et il y a aussi toute l'autre moitié, et il n'y a pas de raison, en fait, qu'elles soient seules à porter cette charge encore, en fait.
Un autre point que nous tenons à soulever est que si notre conviction est que le futur du travail doit être écoféministe, c'est-à-dire qu'il doit prendre soin à la fois des autres et de la planète, ce n'est pas pour autant que cela écarte les hommes.
Aujourd'hui, je pense que c'est hyper important de s'informer sur tous ces sujets-là, de se nourrir, de lire, de s'intéresser à ces sujets-là, en fait, et de pas avoir peur du mot écoféministe et d'aller creuser en fait ce qui est dit dans ces notions-là. C'est pas parce que c'est écoféminisme et que ça porte le mot féminisme que les hommes ne doivent pas s'y intéresser. C'est hyper important. Et au contraire, il faut aller creuser ce qu'il y a derrière et commencer un petit peu aussi à rentrer sur son chemin de déconstruction en fait, et de ne pas hésiter à remettre en question le monde qui nous entoure et la société qui nous entoure. Tu l'as posé un peu tout à l'heure, mais on se dit toujours quelle est la place des hommes dans l'écoféminisme, en fait. Et encore une fois, faut pas le voir dans une dualité, etc. En fait, les hommes sont censés et doivent être aussi nos alliés, en fait, dans ces combats-là, en tout cas. Et que eux aussi, mine de rien, ils sont aussi concernés par la convergence des luttes, en fait. Parce que c'est ça dont parle l'écoféminisme, c'est quand même qu'il y a des systèmes de domination qui ne sont pas indépendantes et séparées des autres, et qui, à un moment donné, y a quand même des points communs, et il y a quand même des choses qui sont très similaires. Et les hommes sont concernés aussi par ça. Et encore, comme je disais tout à l'heure, un rôle qui sera d'autant plus bienvenu à partir du moment où ils ont aussi fait cette démarche de déconstruire un peu dans leur esprit tous ces stéréotypes qui entourent notre société et les réflexes un petit peu encore patriarcaux qu'on a, pour que demain, tout le monde, peu importe ton genre, ton âge, ta catégorie socio-professionnelle, ton handicap, ton métier, etc., que tout le monde puisse, entre guillemets, faire société ensemble. Donc c'est peut-être un peu utopiste de dire ça, mais c'est vraiment ce que je nous souhaite, en fait. Moi, le souhait que j'ai pour les autres, c'est de se renseigner, d'écouter des podcasts, etc., pour soi-même chausser un petit peu ses lunettes de féministe, en fait, et de pouvoir réanalyser la société en prenant en compte toutes ces connaissances. C'est ça dont on a besoin.
Ce dont nous sommes vraiment persuadés, c'est que nous pouvons toutes et tous contribuent à construire un nouveau modèle et une nouvelle vision du travail. Et selon nous, vous l'aurez compris, cela passe par un futur du travail qui permet l'épanouissement personnel, l'épanouissement professionnel, et aussi un futur du travail qui permet de prendre soin de soi, soin des autres et soin de la nature.
Inspiré de la vision de Rosemary Redford Wuther dans New Woman, New Earth, nous pensons également qu'il est nécessaire de, et je cite, « combler le fossé entre une vie professionnelle aliénée et une vie domestique étriquée. Non seulement les femmes auraient ainsi la possibilité de participer aux plus larges processus sociaux dont elles ont été historiquement exclues, mais les hommes pourraient retrouver leur rôle d'affection et de soin aux enfants dont ils ont été historiquement exclus. »
Du coup, dans les prochains épisodes, nous souhaitons donc questionner le futur du travail au regard de l'écoféminisme, par exemple, quelles sont les nouvelles façons de travailler ensemble, hommes et femmes, pour un monde plus désirable?
Comment venir à bout des inégalités hommes-femmes?
Comment les femmes réinventent leur métier?
Comment valoriser les métiers du prendre soin?
Travailler moins mais mieux, quel impact sur le genre? Bref, vous l'aurez compris, autant de sujets qui nous interpellent vraiment beaucoup et qui nous font souvent sortir de nos gonds en tant que femmes.
On espère que cette nouvelle ligne éditoriale vous plaira, et pour vous les messieurs, ne partez pas tout de suite, sachez qu'il y aura des infos utiles et intéressantes pour les deux genres, alors on compte sur vous. Si vous souhaitez réagir, proposer un sujet ou une invitée à interviewer, écrivez-nous à contact@neotravail.fr. Merci de votre écoute, merci de votre soutien et à très bientôt.